L'EM, l'émission. L'émission. Sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM, émission quotidienne de Transistor, ex-Radio Évasion. C'est à midi et c'est en rediffusion à 18h. Et aujourd'hui, on accueille des partenaires régulières du l'EM, l'association Elle en Cornouailles, qui réunit des femmes qui ont du talent, tout simplement. Celles qui prennent ou qui veulent prendre des responsabilités dans le cadre de leur parcours professionnel de salarié en tant qu'entrepreneurs déjà installés ou nouvellement arrivés. Un réseau pour les soutenir donc, avec des rencontres mensuelles et aussi régulièrement des événements qui fédèrent comme des conférences. En automne, nous avons ainsi abordé la délicate question du rapport spécifique que les femmes entretiennent avec l'argent. Vous pouvez d'ailleurs réécouter l'émission que nous avions réalisée à cette occasion sur le site de la radio. Cette fois, c'est une question non moins délicate mais plus prospective qui nous intéresse, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle du mode d'emploi à l'emploi modifié. C'est le thème de la conférence qui est organisée par Elle en Cornouailles juste après son Assemblée Générale. Ce sera le 6 juin à Quimper, à l'espace associatif, à la Maison des associations Pierre Valdec-Rousseau. La conférence est assurée par deux intervenants, Karen Guilherme de Brazinov, une entreprise basée à Anvec, et Michael Cabon, qui est directeur du département Humanité et co-créateur de la chaire dédiée à l'intelligence artificielle à l'école d'ingénieurs ISEN à Brest. Et puis il y a aussi Albine Vilger, qui est chargée de la communication et des relations médias de Elle en Cornouailles, qui animera cette conférence. Et ils sont avec nous aujourd'hui. Bonjour.
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 Alors Albine, on va commencer avec la représentante de l'association. Pourquoi est-ce que l'association a choisi ce sujet de l'intelligence artificielle ?
Alors on l'a choisi après sondage auprès des adhérentes et puis un vote LinkedIn également, en ayant identifié plusieurs sujets susceptibles de correspondre à nos objectifs de conférence, sensibiliser le plus large public possible, notamment les femmes, à des thèmes qui les concernent et pour lesquels elles ont besoin de connaissances et surtout de débats.
Donc elles avaient conscience, les adhérentes du réseau, que c'était un sujet.
En tout cas, c'est celui qui est arrivé en premier tout de suite dans le sondage, le sujet dont on parle partout en ce moment, à tort ou à raison. La conférence sera aussi là pour voir si cette surinformation concernant l'intelligence artificielle est justifiée ou pas.
Alors, nous avons deux spécialistes, on va dire, de chacun de leur point de vue, qui vont nous donner la fameuse définition dont on en a besoin, parce qu'en fait, on dit tellement tout et n'importe quoi sur l'intelligence artificielle. Karen, Guilherme ?
Alors, je ne vais pas avoir une définition exhaustive, parce que quand on parle d'IA, en fait, il y a différents types d'IA, dont celle qui est la plus communément utilisée au quotidien, c'est le machine learning. On n'est pas forcément de mots dessus, en fait, avec tout ce qui est algorithme de recherche sur Internet et de recommandations. Pour ma part, moi, j'utilise plutôt l'IA générative, qui est quelque chose qui est accessible, qui sert d'assistant finalement pour générer des textes, des images, des vidéos et qui fait vraiment une révolution depuis un an et demi et dont on parle beaucoup actuellement en fait.
Le fameux notamment ChatGPT, Midjourney, etc.
Voilà,
quoi,
etc. C'est
l'intelligence qui génère. Michael Cabon.
On peut parler d'intelligence artificielle, même si il y a un malentendu sur le mot. Ce malentendu, c'est la traduction en français d'un mot ou d'une expression qui est artificial intelligence en anglais. Alors intelligence ou intelligence en anglais, c'est l'intelligence, bien sûr, mais c'est aussi le renseignement ou l'information. Et quand on le traduit en français, on le traduit avec le mot intelligence, qui laisse à penser que la machine serait très humanisée. Et là, ça pose une problématique. Je pense que c'est presque le cœur de la question quand on parle des êtres humains. Donc moi, la définition que je prends, c'est un système d'information d'aide à la décision qui repose sur des données, des datas, qui repose sur un algorithme, quelque chose qui va les interpréter et qui ensuite doit amener à une interface homme-machine dont maintenant, qui est rendu célèbre par les outils d'IA générative, puisqu'on peut converser, ça a été ça la grande révolution de l'IA générative, et qui permet de prendre des décisions par l'intermédiaire d'arbres à décision, qui sont finalement assez classiques dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de l'informatique.
Alors peut-être qu'on peut dire ce que n'est pas l'intelligence artificielle, ça permettrait aussi de la définir en creux.
Ce que n'est pas l'intelligence artificielle, ce n'est pas une personne, comme dit Michael, hein. On ne peut pas communiquer comme si c'était un ami, Il faut le voir vraiment comme une machine et lui donner du contexte sur la partie conversationnelle, justement. Si on veut avoir des réponses efficaces, il faut lui donner tout le contexte, les six piliers, contexte, objectif, ton, etc. Et donc, il faut vraiment le voir comme une machine et pas avoir de biais et justement avoir une certaine vigilance sur ce qu'on transmet comme information sur ce type d'outil.
Oui, on va revenir sur les éventuels dangers, évidemment. Il faudra bien qu'on l'aborde.
Mais... On peut parler à une machine et donner un nom, et certains l'ont fait, à un robot ou une machine à laver, etc. Oui. Néanmoins, il y a peu de chances d'avoir une interaction profondément humaine avec elle. Et là, c'est un peu la même chose avec les IA qui s'apparentent, et c'est ça peut-être tout le trouble avec l'apparition de la voix maintenant dans les IA génératives, qui s'apparente à une conversation qu'on pourrait avoir avec les uns ou les autres. Et la grande difficulté, c'est cette humanisation qu'il peut y avoir de la machine, qui laisse à penser qu'elle pourrait vivre des émotions alors que seuls des êtres humains sont capables de vivre des émotions. Donc pour répondre à votre question, qu'est-ce que n'est pas l'IA ? Ce n'est pas le remplacement ou la substitution de l'être humain par l'IA en l'occurrence.
Albine Wiesley.
Oui, je réagis parce que l'un des éléments importants dans le choix de cette conférence, c'est aussi de rassurer des entrepreneurs ou des salariés ou ceux qui sont en construction de projets. On entend souvent dire « l'intelligence artificielle va me remplacer ». Et en fait, l'un des objectifs pour nous, c'est bien d'arriver à la conclusion partagée que non, je ne vais pas être remplacée par l'intelligence artificielle. Par contre, je peux être remplacée par une personne qui connaît l'intelligence artificielle alors que moi, je ne la connais pas. Et c'est là tout l'enjeu. La nuance, elle est d'importance.
Oui, d'où l'importance pour un réseau comme Hélène Cornouaille de montrer qu'elle est dedans. Quoi. Enfin,
absolument, et qu'en fait, certaines utilisent même déjà l'intelligence artificielle sans même s'en apercevoir, parce qu'on met la projection et la lumière actuellement sur le ChatGPT, l'IA générative, mais si on s'en tient à ce qu'est l'intelligence artificielle, elle existe déjà dans les usages depuis un certain temps, et les nouveaux usages, en tout cas, sont plutôt parfois des facilitations dans notre métier.
Voilà, après avoir essayé de définir ce qu'est l'IA, on va essayer de voir justement ce qu'elle fait concrètement. Qu'est-ce qu'elle fait dans notre quotidien déjà, sans parler forcément que du milieu professionnel ?
Dans notre quotidien, elle fait déjà un certain nombre de choses. Ce n'est pas une nouveauté en soi. Elle est apparue comme étant une nouveauté parce que pour le grand public, c'est devenu plus facile et beaucoup de gens l'ont utilisé. Beaucoup de gens l'ont délaissé par la suite aussi. On y reviendra sur la capacité que les organisations peuvent avoir ensuite à mettre en œuvre des projets qui concrètement peuvent apporter quelque chose aux tâches chronophages. Une remarque simplement, il y a des tâches dans notre travail dont on aimerait bien que la machine s'y substitue. C'est-à-dire qu'il y a des tâches chronophage, qui est répétitive, pas intéressante du tout. Et si c'est la machine qui le fait, c'est tant mieux. Est-ce qu'on regrette beaucoup qu'il n'y ait plus de mineurs, par exemple, en France, dans les mines de l'Est de la France, avec les problèmes de santé que ça pouvait avoir, d'espérance de vie limitée, etc. Je crois pas. Pour le folklore, ça nous a donné de belles chansons au Racing Club de Lens, mais finalement, ces tâches-là étaient très difficiles pour les êtres humains. Donc là, l'IA peut apporter quelque chose. Et puis ensuite, sur les exemples concrets, ça fait 70 ans qu'il y a de l'IA, même si aujourd'hui la vitesse de calcul, la puissance de calcul à l'ère moderne fait que ça peut se développer de façon beaucoup plus forte. On le sait par exemple, une IA ne fatigue pas. Elle n'est pas aussi fatiguée qu'un médecin quand il regarde des radios. Et typiquement, dans le domaine de la santé, il y a beaucoup d'usages qui sont déjà réalisés pour appréhender la fabrication de nouveaux médicaments en interprétant des molécules que l'être humain n'a pas l'idée d'associer entre elles, pour étudier des radios, par exemple, pour voir s'il peut y avoir les prémices de quelque chose qui pourrait être dangereux pour la santé de l'être humain, avec un taux de détection et un taux d'erreur qui est parfois supérieur à celui d'un être humain, quand bien même il serait un professionnel du sujet.
Karen, Guillaume, comment est-ce que vous en servez concrètement ? Vous pouvez nous expliquer dans votre boulot ce que vous faites ?
Oui, bien sûr. Alors, pour ma part, en fait, on l'utilise avec les entreprises, généralement. Enfin, il y a deux pans. Moi, je l'utilise au quotidien pour mon entreprise et après, je l'utilise avec mes clients. Dans mon usage quotidien, je l'utilise pour la partie prospection commerciale.
Vous vendez des services aux entreprises,
oui,
c'est ça ?
Voilà, je suis formatrice sur les outils no-code et IA. Et donc, j'ai une petite partie réalisation d'outils de type CRM et outils de gestion collaboratif.
Alors, c'est CRM, faut peut-être préciser nos codes CRM, ce que c'est rapidement.
Oui, bien sûr. Ouais. Bon, après, ce n'est pas le sujet, mais les outils no-code, tout simplement, ce sont des outils qui permettent de créer des applications et des outils de gestion interne avec de la programmation visuelle. sont codées et ça ne demande pas de compétences techniques élevées.
Et CRM, c'est pour gérer son entreprise.
Gérer les clients, le suivi client et les interactions clients de manière générale. Donc, pour ma part, on a deux pans. On utilise sur la partie communication, sur tout ce qui est calendrier éditorial, l'IA, générer un calendrier qui est cohérent avec. Ça permet de faire du brainstorming. Enfin, nous, on a des idées, mais parfois, ça permet d'accélérer parce que, comme j'ai un secteur d'activité assez vaste et on peut pas être partout à la fois, ça permet d'avoir une cohérence dans la ligne éditoriale et dans les posts LinkedIn qu'on écrit.
Donc c'est l'intelligence artificielle qui rédige en quelque sorte, c'est ça? Alors, qui suggère des thèmes, comment ça se passe?
Oui, alors elle va par exemple sur... alors si je rentre dans le détail...
Oui, ça nous intéresse.
Oui, oui. Ça vous intéresse. Oui. Moi je vais avoir des idées de thèmes que j'aimerais aborder... Mais je n'ai pas forcément le temps pour pouvoir développer plus que ça les idées. Donc je vais en fait soumettre les idées que j'ai eues sur des cas concrets, sur comment utiliser par exemple Notion, un outil collaboratif de manière concrète dans les métiers du marketing. Et donc je vais soumettre mes idées à l'IA avec, en précisant bien le contexte, mes objectifs, mon ton, les valeurs de mon entreprise. Tout ça en donnant tout le contexte. Et après, elle va me générer un calendrier en proposant différents frameworks pour la partie... Alors, framework, je vais préciser, ce sont des techniques de marketing pour pouvoir être efficace dans la transmission du message sur LinkedIn.
Donc, elle vous rédige quand même des messages, rédige, en fait, des
voilà,
posts, quoi.
Ouais, elle rédige des posts et après, je remanie certains. Et parfois, j'ai pas la nécessité de le faire. Ça dépend le ton que je vais employer. Mais on arrive quand même à quelque chose de très précis. En fait, il faut juste être exhaustif dans ce qu'on lui demande.
Oui, il y a un gros travail de départ quand même.
Voilà, il y a un gros départ de mise en contexte. Il faut vraiment être précisé en fait toute la situation pour avoir une réponse qui est assez précise et efficace en fait.
Et après, donc l'outil vous pond entre guillemets des posts qui sont publiés automatiquement sur vos réseaux sociaux. Enfin,
parce que le but c'est quand même d'avoir un contrôle humain. C'est là où on dit que la machine ne remplacera pas l'homme. Je pense qu'il y a quand même besoin d'avoir une vigilance, laisser toute la possibilité à la machine de. On peut le faire, l'automatiser. C'est un peu risqué parce que parfois on peut avoir des choses aberrantes encore. Donc c'est toujours important d'avoir un regard sur ce qu'on poste, surtout qu'il y a quand même une partie publique. Ce serait idiot de laisser des choses un peu aberrantes parce qu'il faut aussi structurer en fait quand on fait un prompt, demander à la machine de ne pas halluciner et d'inventer des faits qui sont invérifiés ou inexistants.
Alors donc, un prompt c'est une commande, on fait une commande.
Voilà, prompter c'est converser avec ChatGPT en langage naturel et en donnant des contextes de conversation, de ton, d'objectifs et de mise en situation.
Albine, il y a des exemples comme ça d'usage un peu similaire ou autre dans le réseau?
Alors, moi, ce à quoi me fait penser le propos de Karen, j'ai assisté récemment à un atelier à la Technopole sur le droit de propriété intellectuelle, parce que ça réinterroge complètement le droit de propriété intellectuelle, notamment pour des artistes. Et en fait, on s'aperçoit, bon, c'est un droit qui est en construction actuellement, bien évidemment. Donc moi, j'ai deux exemples qui me semblent intéressants. Le premier, c'est par rapport à une œuvre artistique, qui va utiliser énormément l'intelligence artificielle comme des artistes le font actuellement, ça reconsidère le critère du droit de propriété artistique qui justement jusqu'à présent c'était un artiste crée point barre et on respecte sa création. Là, quand il y a eu des contestations, est-ce que la production d'un artiste fait avec un recours important à l'intelligence artificielle relève d'une œuvre originale ou pas? Ce qui a été interrogé par le juge, c'est la question des prompts, justement, ce qu'on appelle, en fait, on passe une commande, et plus on est précis dans sa commande, plus on obtiendra une production satisfaisante, mais ça veut dire que l'humain est intervenu en amont.
Donc on peut
et
dire
ça c'est veut dire voilà original. Qu'il intervient en aval aussi pour modifier de la même manière que sur la question de la santé sur les radios et les scanners l'intelligence artificielle ne va pas remplacer Dieu merci au final le médecin qui va dire il faut faire ceci ou il faut faire cela. Par contre pour passer en revue des milliers et des millions de données, évidemment que là l'intelligence artificielle amène une vraie plus-value. Sur le droit de propriété intellectuelle par rapport aux artistes, c'était extrêmement intéressant de voir que eh bien il y a toujours une action humaine, bien évidemment, pour considérer qu'il y a eu une création originale.
Oui, Michael Cabon, on peut revenir sur les limites finalement de l'IA, ce qu'elle ne peut pas faire. On a dit ce qu'elle n'était pas, mais qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire pour l'instant ?
Il y a sûrement beaucoup de choses qu'elle ne peut pas faire. Pour autant, je pense qu'actuellement, on est en phase de construction et d'intégration des outils de l'IA un peu partout. Alors, dans les administrations, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur cette question et qui... aussi retravaille sur la question de l'accès aux données, parce que enfin il y a une question qui est fondamentale dans l'IA, c'est les données. L'IA c'est le moteur et les données sont les roues, la carrosserie, enfin ce qui permet d'avancer.
Autrement, le carburant,
vous avez juste un moteur sur un parking ou sur une place de stationnement. Bon, ça peut être joli à regarder, ça peut même démarrer, mais par contre ça vous amènera nulle part. Et donc cette question des données, elle est fondamentale sur leur accès. Donc il y a toute une aujourd'hui des réflexions qui sont menées, par exemple sur l'open data des décisions de justice, voilà, à quel point on met à disposition et comment et qui peut les utiliser. Il y a la question, parce qu'on parle de données, une partie d'entre elles sont des données personnelles, peut-être avec des identifiants, qu'est-ce qu'on en fait. Il y a d'autres données qui ne sont pas identifiantes et qui peuvent être intéressantes, mais comment on les stocke. Donc derrière, il y a la question de où on les met, dans quel entrepôt on les met, hein, comme dans un hangar, là ce sont des entrepôts numériques, qui y accèdent et où ils sont situés. Donc de grandes questions qui sont liées à des questions de souveraineté numérique pour le continent européen, par exemple, puisque quand même une grande partie de ces acteurs sont des acteurs à dimension généralement américaine, chinoise aussi, mais ils sont moins utilisés sur un continent comme le nôtre. Donc est-ce qu'on a envie d'être dépendant ou pas de technologies qui sont des technologies amies, mais qui sont dont on sent quand même que leur intérêt est souvent leur première préoccupation plutôt que l'intérêt des Européens. Donc ça, c'est un enjeu. Puis après, il y a dans la conception, parce qu'on en vient peut-être au thème, mais le thème c'était la question de la place des femmes aussi dans les enjeux de l'IA.
Mais oui, allons-y.
Et donc il y a des enjeux sur qui les programme, et on a vu ça, alors principalement les études portent surtout sur les États-Unis, et donc les États-Unis, il faut encore le rappeler, sont pas l'Europe ou l'Europe ne sont pas les États-Unis. Donc on a plein d'enjeux qui font souvent pousser des cris d'orfraie aux uns et aux autres ici, mais qui n'ont pas de conséquences particulières dans un pays comme la France, par exemple. Mais la question des biais, et donc de qui programme, est un enjeu fondamental. Alors la question de la couleur de la peau aux États-Unis est flagrante, elle est encore vraiment une vraie problématique,
oui,
sociétale.
On se rend compte que l'IA est raciste en fait, concrètement.
Je dirais pas ça, parce que raciste ça voudrait dire qu'il y a une volonté
bien
de...
Sûr,
alors il
oui,
peut y avoir
vrai.
Une volonté de... Là c'est plutôt le résultat qui amène à une forme de discrimination. Mais les États-Unis ont une discrimination positive parfois, négative dans d'autres cas. Ce qui n'est pas le cas par exemple pour la France. Et là ça pose une question, et si on en vient à la question de la place des femmes, qui programme aujourd'hui sont essentiellement des hommes et qui programment avec des réflexes, une culture, sans même peut-être penser à mal. Il peut y avoir des gens
qui pensent
à mal.
Ah oui, c'est totalement inconscient.
Mais de façon inconsciente, et qui programment en testant des modèles, donc des algorithmes, cette fois-ci, les données, on va dire, elles sont de base, et donc qui programment des algorithmes avec une perception du monde qui est celle de leur regard sur ce monde-là, et qui est fait de plein de paramètres. Et si vous me permettez, peut-être, on ira sur les biais et tout ça tout à l'heure, mais dans l'usage des IA génératives, il y a un enjeu qui nous rappelle la place de l'humain. C'est on pourrait avoir l'impression, moi je le vois avec les étudiants qu'on peut avoir, qui peuvent trouver une réponse très facile. Grosso modo, toutes les réponses sont possibles avec un outil d'IA générative. Vous pourriez même programmer votre émission. Et est-ce que c'est nous qui parlons ? Ça, je pose la question à vos auditeurs. Est-ce que c'est vraiment des êtres humains qui sont en train de parler ? Peut-être que c'est des voix qui ont été programmées pour dire des choses. Mais plus sérieusement, avec les étudiants, la problématique, c'est de dire, est-ce que vous voulez avoir la réponse ? Et à ce moment-là, vous pouvez l'avoir avec un outil d'IA générative, il va vous l'apporter plus rapidement, peut-être même mieux, par certains côtés, que vous n'auriez pu le faire. Ou bien, est-ce que vous voulez apprendre et aller sur le chemin de la réponse ? Et l'éducation, me semble-t-il, c'est d'aller sur le chemin de la réponse et pas spécialement avoir la réponse. Et ça suppose, c'est là que ça nous rappelle notre humanité, déjà d'avoir une grande culture générale de transversalité, une culture d'appréhension de la problématique, et puis deux, une manière, Karine a dit tout à l'heure, sur la question du prompting, donc de questionnement, qui doit être mise en évidence pour savoir poser la bonne question, savoir converser avec la machine. Et je crois qu'un étudiant qui se contenterait d'avoir la solution, c'est finalement comme prendre ou voler la solution de l'exercice, et ça n'apporte rien à la compréhension globale. Et c'est peut-être toute cette complexité qu'il faut apprendre. On peut avoir tendance à aller chercher tout de suite le résultat, alors que finalement, comme souvent et comme dans l'existence d'une manière générale, c'est pas tant la destination qu'on connaît tous à la fin, mais plutôt le voyage qui est intéressant.
Alors, on a parlé des gens qui conçoivent l'IA, mais on n'a pas tellement parlé finalement des usagers ou usagères. Justement, je voulais savoir, est-ce qu'on sait si les femmes sont aussi usagères que les hommes ? On a une idée de ça, Karen ?
Alors, pour ma part, moi, je travaille activement justement à l'inclusion. Et donc, j'organise régulièrement des ateliers gratuits pour former les personnes sur l'IA, sur des cas d'usage concrets, pour que ça leur parle, pour pas qu'ils aient un frein. Et donc, dans les ateliers que j'anime, c'est 80% de femmes qui viennent, qui sont très curieuses, qui apprennent très vite, parce qu'une fois que les freins sont levés, elles se rendent compte que c'est tout à fait à leur portée. Donc, et en plus, ce que je trouve appréciable, c'est qu'il y a un esprit critique aussi. C'est-à-dire, en fait, ne pas prendre l'outil comme ça, avoir le regard, aller vérifier ce qu'on a obtenu comme résultat, le questionner, vérifier ses sources, etc. Donc ça, je trouve ça très pertinent. En plus, pour ma part, dans mes clients, il y a beaucoup de femmes qui sont dans des postes support de logistique, de marketing et de commerce, et qui se sont emparés de ce sujet, et les résultats sont spectaculaires. Donc, d'ailleurs, j'ai Cécile Barrel de Quimper Gastronomie qui interviendra justement pour montrer comment elle s'est emparée de ce sujet.
Parce que la conférence porte sur l'emploi, enfin l'IA et l'emploi, hein, c'est ça aussi. Ouais. Donc, qu'est-ce que ça va changer, l'intelligence artificielle ? Quels seront les emplois, les fonctions les plus touchées, enfin les plus concernées, et celles qui seront plus à l'abri peut-être ? Est-ce qu'on le sait aussi ça ? C'est de la prospective, mais bon.
Là, il y a beaucoup d'études qui paraissent et qui sont parfois contradictoires selon celui qui les publie. On a pu parler de 40%, 50% des tâches des salariés qui seraient automatisables par l'intermédiaire de l'IA, générative ou non. Bon, ça semble beaucoup. Là, la dernière étude qui est parue sur la question porte sur le fait que ça serait à peu près un quart des tâches, mais pas forcément des emplois qui pourraient être menacés, soit 5% des tâches globales d'un individu. C'est vraiment en cours de construction parce que l'évolution est hyper rapide sur plein de sujets. Il y a des possibilités qui sont proposées et puis après il y a toute la question de leur intégration dans une entreprise, c'est-à-dire comment est-ce qu'on le met en œuvre concrètement. Et c'est pas parce que quelque chose est possible que vous pouvez le mettre en place. Ça c'est un vrai défi. Il y a des appels à projets qui sont donnés par l'État pour justement essayer d'accélérer sur ce type de sujet. Et après le gros enjeu, c'est pour ça qu'on a créé la chaire Managia avec l'école de design Strat et puis avec l'entreprise Polaria et Lizen, c'est la question du management des organisations à l'ère de l'IA et des IA génératives, c'est-à-dire de se poser la question de savoir vers où on va, quels sont les freins. Tout à l'heure, Albine l'a noté, mais c'est un enjeu essentiel. Et on constate que dans le domaine de l'IA, généralement, plus les gens l'utilisent et l'appréhendent, moins ils en ont peur. Parce que finalement, le mot est un peu tapis dans l'ombre, c'est un peu comme le monstre enfantin qu'on peut avoir. Et on se rend compte que l'IA, plus on la connaît, plus on se rend compte qu'elle n'est pas spécialement humaine. Elle n'est pas humaine du tout, elle n'est pas inhumaine non plus, mais c'est une machine. Et donc, est-ce qu'on peut avoir peur d'une machine, d'un micro, etc. C'est l'usage qu'on va en faire qui compte.
Oui, l'humanité a passé son temps à créer des machines et à s'en servir plus ou moins bien d'ailleurs.
Mais donc c'est souvent ça. Des peurs préexistantes, ouais, à l'IA dont on a peur. Et évidemment, là, beaucoup de gens ont peur pour leur travail parce qu'ils n'ont pas envie de le perdre. Ce qui est différent finalement de est-ce que je vais le perdre ? C'est j'ai pas envie de le perdre.
Et ensuite, j'ai pas envie qu'il change trop. Mais, en fait, c'est ça.
Parce qu'on peut avoir des habitudes, parce qu'elles sont agréables, ces habitudes, elles sont un peu troublantes aussi, parce qu'on maîtrise aussi quelque chose. Or, semble-t-il, les compétences qui vont y être associées peuvent être différentes. Et je crois que là, pour l'instant, c'est une intuition. Il faudra que ça soit corroboré. Il me semble que les femmes, dans cette capacité à s'adapter, à renouveler un peu leurs approches, ont des possibilités qui leur sont offertes dans les années à venir pour finalement reprendre une place qui a toujours été la leur, enfin qui a été la leur dès le début de l'informatique, à la fin des années 70, où on avait énormément de femmes développeuses informatiques et qui ont disparu au fur et à mesure que ce marché est devenu un peu plus bankable. Et un peu comme d'habitude, les hommes sont arrivés parce que ça avait un intérêt financier et un intérêt de prestige en chassant donc ceux qui y étaient précédemment, ce qui se trouvaient être des femmes.
Karen, ouais. Non.
Oui, alors pour rebondir là-dessus, effectivement, je rejoins Michael sur cette question. On sait que Alice Recoq est une des initiatrices de l'IA. Donc il ne faut pas oublier que donc, les femmes sont tout à fait capables de s'emparer de ce genre de sujet. Maintenant, je pense qu'il y a un travail à faire au niveau de l'éducation et de l'enseignement, parce que clairement, moi, je vois mes enfants sont à l'école. Il y a un vrai problème de discrimination vis-à-vis des filles, des petites filles encore.
C'est toujours la question des données, en fait. Là.
C'est toujours pareil. Donc, c'est ça. Oui, l'histoire du biais, mais c'est un biais culturel très fort en France. Et donc, tant qu'on n'aura pas réussi à revoir un peu la manière d'envisager l'enseignement pour les enfants, eh ben, on se frottera ce problème, même si les gens arrivent à être... même si en tant qu'adulte, on rebondit et on peut en fait faire un bifurqué comme moi j'ai fait parce que j'ai fait des études littéraires, je ne suis pas scientifique à l'origine. Hein.
Alors donc, bravo.
Voilà, donc c'est possible. Mais il faut en fait il faut passer le cap de dire bon ben effectivement j'ai pas ce cursus scientifique, mais il ne tient qu'à nous en fait de s'emparer ce genre de sujet parce que la montagne n'est pas très haute à franchir en fait. C'est la formation sur ce type de d'outils, elle va pas nous prendre des années, elle peut prendre quelques semaines et on peut être opérationnel assez rapidement. Donc je pense que ce sont des outils qui vont vraiment permettre d'avancer sur le thème de la parité et de donner plus de chances aux femmes d'avoir accès à des métiers tech.
Oui, c'est la question que j'allais demander, parce que si tous ces outils demandent des formations énormes, il y a un côté décourageant, quoi. C'est ça aussi. Les gens, ils ont peut-être peur de dire s'il faut se reconvertir complètement, c'est un sacré frein.
Pour moi, c'est une opinion. Je pense que le plus difficile, c'est pas de perdre son emploi. Le plus difficile, c'est de ne jamais en retrouver. C'est ça qui est compliqué. Et que parfois, ça suppose de rebooster, rebooter, comme on dirait en informatique, sa vie en changeant complètement sa donnée. Peut-être que vous êtes passé dans cette radio de l'analogique au numérique. Ça supposait des investissements, peut-être même de changer des manières de faire. Et pour autant, c'était nécessaire parce que le monde, lui a évolué. Et donc, là, il y a la vraie question, c'est l'accompagnement au changement, la levée des freins et l'augmentation des compétences. Il y a deux enjeux principaux et je crois que le sujet de l'IA, il met en évidence la place des femmes et dans notre société et parfois leur disparition progressive. Pour avoir fait beaucoup de formations, une partie des outils de l'IA sont intégrés parce qu'ils ont plus d'efficacité économique d'abord, et donc on s'est adressé à des chefs d'entreprise, et dans ces assemblées de chefs d'entreprise, c'est essentiellement des hommes qui avaient, et donc ça pose pas la question de est-ce que les femmes sont capables d'eux. Évidemment que les femmes sont capables d'eux, pourquoi elles ne pourraient pas, mais deux, c'est le public qui est le plus intéressé, c'est un public qui a un intérêt économique à pouvoir le faire, et le public qui a un intérêt économique à pouvoir le faire, les chefs d'entreprise, sont pour l'instant beaucoup des hommes. Ça pose la question de l'accès à l'entrepreneuriat, à la direction d'entreprise des femmes, qui est un vrai sujet encore dans notre société. Et le deuxième point, c'est qui programme, qui est formé. Et pour le faire au sein de l'ISEN Ouest, au niveau ingénieur avec notre parcours, ou bien au niveau développeur technique dans le domaine de l'IA, la vraie difficulté, c'est de permettre à des femmes d'entrer dans ces écoles-là. C'est pas parce qu'elles ne peuvent pas ou que ça leur serait interdit, c'est parce qu'elles n'y viennent pas. Et donc on a un quart, elles n'y viennent pas, en tout cas elles y viennent moins que les hommes.
Comme
dans
tous les métiers scientifiques, en fait.
Alors pas tous, parce que la médecine, presque, c'est un métier scientifique, le droit, c'est un métier à caractère scientifique, et en fait elles sont là. Et si elles sont dans ces métiers-là, elles ne sont pas ailleurs, et elles ne sont pas donc dans les métiers, au moins en tout cas dans les métiers d'ingénierie et de technique. À l'école, on a un quart de femmes, par exemple, c'est un score qui est jugé plutôt bon, avec un quart de jeunes filles. Dans les formations de type Microsoft Simplon qu'on opère également, la difficulté, c'est de trouver des femmes. On en a quelques-unes par promotion, alors que ce sont des métiers d'avenir. Et il y a des enjeux, des actions qui sont mises en œuvre. J'ai pu participer cette année en tant que mentor, par exemple, à un programme qui s'appelle Technovation pour des jeunes filles de 13 à 17 ans, donc vraiment très très en amont, parce que c'est le sujet, il est là, pour les former au monde de l'intelligence artificielle en créant un petit projet à caractère environnemental. C'est un programme qui est national et j'incite les établissements scolaires qui nous écoutent à pouvoir peut-être l'appréhender et le mettre en œuvre directement ici, parce qu'il y avait 80-90 jeunes filles qui étaient encouragées à mener leur projet tous les samedis matins avec des mentors qui pouvaient suivre leur projet et ainsi les inciter au moins à se poser la question. Puis après, le choix d'une carrière doit aussi s'établir en fonction de ses passions et de ses intérêts.
Et puis sinon, il y a les réseaux. Comme Elle en Cornouailles, et les conférences. Albine, on va terminer cette émission avec un rappel sur les informations pratiques pour s'inscrire, pour y assister.
Oui, bien sûr. Donc effectivement, on a fait ce lien entre les freins spécifiques qui touchent les femmes, de manière générale, et puis ce sujet de l'intelligence artificielle. La conférence a lieu le 6 juin à 19h à la Maison des associations de Quimper. Pour celles qui le souhaitent, à 18h, il y a l'Assemblée générale. Et l'inscription se fait de manière obligatoire via Hello Asso. Donc c'est très simple, il suffit de taper Hello Asso, Elle en Cornouailles sur sa barre de recherche et d'arriver à l'inscription.
Merci beaucoup à tous les trois.
Merci.
Merci à vous.
Dans un instant, c'est la deuxième partie de l'EM, l'émission quotidienne de